Les textes pour aujourd'hui. Donc le premier, c'est dans Job, chapitre 38, versets 1 et versets 8 à 11. Le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête. Qui a enfermé la mer avec des portes quand elle s'élança pour sortir du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité épaisse ses langes. Quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. La deuxième lecture, c'est dans 2 Corinthiens 5, versets 14 à 17. Car l'amour du Christ nous presse, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et puis le dernier texte dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Le soir de ce même jour, il leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, il l'emmène comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous saisis d'une grande crainte ? » Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-il donc celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent ?»
Certains s'imaginent qu'une tempête sur le lac de Tibériade ne serait qu'une tempête dans un verre d'eau. Or, rien de plus faux, car on sait combien sont redoutables les brusques tempêtes de ce lac, qui est une sorte d'entonnoir encaissé sur trois côtés entre des parois escarpées. On sait aussi que des vents puissants s'orientent généralement du froid vers le chaud, et c'est-à-dire du massif de l'Hermon vers la vallée du Jourdain, et que ce phénomène naturel explique l'existence de vents modérés à forts, voire violents, qui déferlent sur la vallée du Jourdain et notamment sur le lac de Tibériade. Après ce bulletin météo, et ces considérations climatiques, nous apercevons que l'écrin géologique de ce miracle, miracle auquel évidemment personne n'est obligé de croire, que cet écrin est plausible, et incidemment cela montre que l'auteur de ce texte, ou les auteurs des évangiles, quand il s'agit pour eux de raconter un miracle, ne le font pas exactement n'importe comment. Évoquons maintenant rapidement un autre écrin de ce miracle, l'écrin narratif. On peut s'y étonner, par exemple, que Jésus s'endorme sur son coussin, alors que, à la poupe du bateau, il a la charge de le conduire. Si on remonte légèrement plus haut dans le contexte de ce texte, on va remarquer que Jésus, en fait, vient de prêcher toute la journée. Il vient de prêcher toute la journée à des foules nombreuses et demandeuses de sens pour leurs existences. On va donc dire que, aussi bien la survenue d'une tempête dans ce lac que le fait que Jésus soit fatigué n'ont rien, absolument rien, d'étonnant. Connaissant l'habileté narrative de l'évangile de Marc, on pourrait ici voir se déployer des significations bien plus subtiles, a priori, et bien plus profondes que le simple fait d'une tempête qui s'apaise miraculeusement. Nous pouvons révéler ici un effet littéraire saisissant, la mise en symphonie de la puissance naturelle du vent et de la puissance de la parole de Dieu. D'un côté, par le jeu du contraste des températures entre la vallée du Jourdain, quasi tropicale, et celle observée sur les pentes de ce fameux mont Hermon, une tempête est en train de se préparer et commence à gonfler pendant que Jésus, lui, use de toute son énergie au bord de ce lac d'eau douce où pour l'instant tout est calme. Il use de son énergie pour nourrir les foules de ses messages en forme de paraboles diverses. Et c'est au moment précis où retombe ce que je vais appeler la tempête puissante de sa prédication, quand, épuisé, endormi sur cette barque de laquelle il ne tient même plus la barre, c'est à ce moment qu'une autre énergie s'abat sur cette population embarquée. Jésus, par épuisement, symptôme, dit-on, de son humanité, cesse de délivrer une part de cette mystérieuse puissance divine qui l'anime et s'endort. Et au moment même où il dort, l'autre tempête arrive qui affole les disciples et qui vient prendre le relais. Une tempête remplace l'autre. Les tempêtes que Marc met en symphonie sont toutes deux sources d'une forme de danger. Celui de se noyer pour la tempête climatique. Celui de mourir à son ancienne vie pour la tempête évangélique. Car la prédication de Jésus, c'est d'abord un appel à la conversion radicale. Et la conversion, en fait, c'est dangereux. Toutes les paraboles qu'il vient de raconter dans cette longue journée et épuisante journée sont des paroles de changement radical. Ce que Marc raconte ici, ce n'est pas l'histoire de l'apaisement d'une tempête. C'est au contraire l'histoire d'une tempête qui ne s'épuise pas et qui provient de Dieu, soit sous la forme d'un phénomène climatique, soit sous la forme de la parole puissante, les deux devenant le miroir de l'autre. Les deux puissantes et dangereuses, sauf que la seconde est humaine. Prenons maintenant un autre angle pour observer ce même récit. Jésus parle, il fait calme, Jésus dort, la tempête se déchaîne, Jésus est réveillé, la tempête s'apaise. Il n'y a aucune transition littéraire entre le réveil de Jésus et son injonction au vent et à la mer. C'est au moment où il se réveille qu'il dit immédiatement et violemment au vent et à la mer de se taire, comme si cette puissance retournait en lui-même. Comme s'il absorbait la tempête. Comme si, de nouveau, c'était de nouveau lui le maître, le conducteur de la puissance de Dieu. Ici, la présence puissante de Dieu se manifeste alternativement. Puissance de la parole, puissance des éléments, puissance de la parole. On peut s'étonner, en lisant ce texte, que cette tempête ne le réveille pas. Ce sont les disciples qui le réveillent. Ils le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» C'est très étonnant un sommeil aussi lourd. On pourrait dire lourd comme la mort. Ce sommeil pourrait évoquer, et quand on connaît la capacité symbolique des évangiles, on pourrait dire « peut évoquer » la mort de Jésus. « Nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Il s'est retiré et la tempête s'abat sur nous. Comme si l'énergie qu'il avait réussi à absorber de nouveau se répandait maintenant par une nature aveugle, redevenait la puissance énorme et sans limite, dit Dieu, créateur, celui de Job. L'évangile de Matthieu raconte qu'à la mort de Jésus, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, raconte que la terre tremble, que les rochers se fendent. Comme pour dire que cet homme-là régulait la puissance terrible de Dieu et que lui seul pouvait nous protéger, nous embarquer de la colère de Dieu que rien, ni personne, sinon lui, ne peut contenir, ne peut retenir. Il faut qu'il se réveille, il faut qu'il ressuscite. Peut-être, maintenant qu'il dort, que la promesse qu'a faite Dieu depuis l'alliance de Noé est rompue. Il avait promis qu'il ne détruirait plus la terre, mais peut-être qu'il a finalement décidé de laisser libre cours à sa colère. Mais le réveil de Jésus d'entre les morts redonnera à cette énergie un sens plus salutaire. Même le tremblement de terre du jour de la résurrection, on lit aussi dans Matthieu, n'est qu'une sorte de roulement de tambour qui précède la descente du ciel d'un ange qui va expliquer aux femmes du tombeau pourquoi celui-ci est désormais vide. Et nous allons voir ensuite, on ne va pas le voir dans une étude biblique, je vous rassure, nous pouvons voir ensuite dans le livre des Actes que, je cite, « le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. » Comme si de nouveau la puissance naturelle était maîtrisée par la présence du Christ. Que c'était désormais le souffle de l'Esprit qui devenait la seule tempête digne d'intérêt. Alors, ainsi, ce qui est raconté ici, c'est la structure même de la compréhension chrétienne primordiale de la venue du Christ. Jésus, c'est celui qui vient réguler et transformer en énergie salvatrice l'énergie déraisonnable d'un Dieu trop grand finalement, trop puissant pour se préoccuper des hommes. Et la phrase des disciples, c'est aussi celle qui précède la découverte de l'Évangile. « Nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Ce sont les éternelles plaintes de Job et les plaintes aussi des auteurs des psaumes. Ce sont ces plaintes qui trouvent ici leur réponse dans le fait que le Fils de Dieu vient délivrer de la part de son Père une autre forme de sa puissance, non pas une puissance aveugle et naturellement destructrice, mais une puissance amoureuse, tout aussi divine, mais désormais qui voit ce que les yeux de Jésus voient, une puissance qui désormais voit avec nos yeux, une puissance qui nous voit notre misère et s'en émeut du plus profond. Et la catastrophe que cette nouvelle forme de puissance peut provoquer, c'est la métamorphose des consciences qui iront désormais s'attacher à créer, sous peine de mort de l'humanité, une fraternité universelle des fils et des filles de Dieu qui sera, et ce qui sera le signe de cette nouvelle fraternité, c'est justement la figuration d'une noyade presque mortelle, le baptême. Ce que ce récit raconte, c'est que l'énergie évangélique est de la même force et de la même origine que l'énergie tellurique ou climatique, mais qu'elle devient le moyen de ne pas sombrer, nous qui sommes dans la barque, mais aussi tous ceux qui sont dans les barques autour, comme le dit ce récit. Ce que ce récit raconte, c'est que cette énergie évangélique, aussi puissante que les forces de la corruption ou celles des tempêtes qui noient des milliers de migrants en Méditerranée, aussi puissante que les forces de l'avidité qui conditionnent en partie le réchauffement de notre planète, et provoque des tempêtes, cette énergie nouvelle sera celle qui nous permettra, nous qui nous serions découverts comme les disciples de celui par qui la mort a été vaincue, d'empêcher par notre conscience, par notre solidarité active que de tels drames non pas se produisent, mais se reproduisent. comme une fatalité. La nouvelle tempête, c'est l'Évangile. L'incendie qui va ravager le vieux monde, c'est cette nouvelle énergie salvifique. Le tremblement de terre, ce sera le tremblement et puis l'effondrement de l'impitoyable coalition mondiale qui gouverne tout sans avoir été choisie par quiconque. La tempête qui ne s'apaisera jamais, c'est la volonté de Dieu d'aimer ce monde. Celui qu'on appellera son fils, le maître de la tempête, ne sera pas un nouveau Dieu, mais le nouvel homme, le nouvel Adam, celui qui a saisi dans sa chair ô combien puissant est l'amour de Dieu. Celui qui ne croit pas au miracle, dans le sens où pour croire au miracle, il faudrait croire à la version d'un monde tel qu'elle nous a été donnée, un monde où le miracle est surnaturel. Le nouvel Adam ne croit pas au surnaturel. Il croit en la présence puissante de Dieu et les miracles ne sont rien d'autre que des expressions, on va dire, normales d'un Dieu puissant. Voilà ce que Marc raconte. Voilà en quelque sorte sa version de l'évangile du Christ. Marc, ce n'est pas l'évangile des mots, ce n'est pas l'évangile des thèmes. C'est l'évangile de la puissance de Dieu qui nous est révélé par son Fils, Jésus-Christ. Puissions-nous tirer de sa méditation une énergie renouvelée, une confiance renouvelée en la puissance de celui qui vient, dans sa volonté de bouleverser le monde par son amour. Puissions-nous trouver une nouvelle motivation pour accomplir ce qui ne sera jamais des miracles, mais des conséquences de notre nouvelle fraternité. Puissions-nous nous relever de la noyade de notre baptême comme des enfants de Dieu qui n'ont et qui n'auront jamais plus peur de rien. Amen.